Bien. Bonjour à tous. J'aimerais ce matin partager avec vous un texte qui m'a particulièrement interpellé il y a quelques semaines. Et c'est le texte inversé. Un verset qui se trouve dans le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit. Le chapitre 1 et le verset 3. Alors, quel est-il ? Le premier livre écrit du Nouveau Testament, au chapitre 1, verset 3. Alors, quel verset ? C'est quoi ? Je vous ai demandé le verset 3 du premier chapitre du premier livre qui nous a été transmis, écrit dans le Nouveau Testament. Alors, c'est là qu'on voit que si on n'a pas sa Bible avec soi, c'est difficile, hein ? Déjà. Alors, c'est quoi ? Non, c'est pas ça. C'est pas dans les Actes. Le premier livre écrit du Nouveau Testament qui nous a été transmis au chapitre 1, verset 3. Non, c'est pas celui-là. Tout à fait. Nous avons la même Bible. Ma question, c'était, quel est le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit et qui nous a été transmis au chapitre 1, verset 3 ? Non, ce n'est pas les Actes des Apôtres. Vous donnez votre langue au chat. Ce n'est pas chez Luc, c'est chez Paul. Non plus. Non, ce n'est pas non plus ça. Voilà. Alors, c'est un texte qui a été donné par Francine il y a quelques semaines. Le premier écrit du Nouveau Testament nous a été transmis par l'apôtre Paul entre 50 et 51. On a un petit peu oublié que, effectivement, les écrits du Nouveau Testament sont classés dans un certain ordre, mais l'ordre d'écriture des livres du Nouveau Testament, eh bien, c'est pas les évangiles d'abord, puis les actes des apôtres, etc. C'est en fait le premier écrit du Nouveau Testament, c'est la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et ensuite, les autres écrits sont apparus par la suite, que ce soit les lettres de Paul, que ce soit les évangiles, les actes des apôtres. Donc, le premier écrit qui a été transmis à l'Église est en fait un écrit qui est adressé par Paul, une lettre qui est transmise par Paul aux Thessaloniciens. Et Francine, il y a quelques semaines, nous a invités à découvrir les introductions de plusieurs épîtres de Paul. Et quand on a lu ensemble la première épître aux Thessaloniciens. En fait, ce premier écrit, et je trouve ça formidable, que le premier écrit du Nouveau Testament qui a été transmis aux églises, donc par Paul qui était installé à Corinthe et qui l'a envoyé à l'église de Thessalonique, dans les premiers versets, le troisième verset plus précisément, il est écrit ceci. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Premier écrit du Nouveau Testament transmis à une église, c'est « Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour » et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour une introduction, un premier écrit qui a été reconnu comme inspiré et transmis à l'Église que nous sommes, il y a dans ce texte de Thessaloniciens des mots importants. Des encouragements. Alors, le contexte de cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens, Paul avait été installé à Corinthe, mais il avait déjà fait un voyage à Thessalonique. Il avait, vous voyez, alors, l'emplacement un peu de Thessalonique est au fond du golfe, là, qui est une des plus grandes villes. On pourrait même dire qu'elle a été longtemps la plus grande ville de Grèce. Et puis, les Thessaloniciens étaient fiers de cette position-là dans leur histoire. Eh bien, cette lettre aux Thessaloniciens a été envoyée environ 20 ans après la mort de Christ. Alors, 20 ans, c'est long, c'est pas long. Hein. 20 ans en arrière, on était en 2008, en 98, j'ai du mal à me rappeler. C'est pas loin, mais en même temps, j'arrive pas à m'en souvenir. Ouais, en 98, c'est pas si loin que ça. Ben, le Christ avait été crucifié, mort et ressuscité. Et 20 ans après, le premier écrit chrétien qui est transmis à une église, eh bien, c'est cet épître. Il a fondé cette église des années avant. Il est à Corinthe. Timothée arrive de Thessalonique. Et apporte à Paul cette information. Écoute, j'ai des bonnes nouvelles de Thessalonique, de l'église que tu as rencontrée, qui a été fondée par toi. C'est vraiment une église super. Elle est vivante. La foi, l'amour des chrétiens de cette ville, c'est quelque chose de formidable. Timothée dit cela à Paul. Et nous avons dans cette première lettre la réaction de Paul, tout ému par ces excellentes nouvelles. Et les Thessaloniciens, il dit, ben voilà, vous êtes sur la bonne voie. Et il s'en réjouit. Il ne vous reste plus qu'à persévérer jusqu'au jour du retour du Seigneur. Et c'est vrai que les Thessaloniciens, pour le coup, étaient vraiment très marqués par le retour de Christ. Mais c'était une belle église. Elle était chère au cœur de Paul. Lorsqu'il y était venu, il avait souffert un rejet violent des Juifs de la ville de Thessalonique. Et en fait, c'est la communauté formée par les non-Juifs qui l'avait appuyé, qui l'avait reçu, qui avait reçu aussi la parole de l'Évangile. Alors l'apôtre, après les avoir salués en disant « Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Et après, il témoigne ceci, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. » L'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé pour la première fois à Thessalonique, quelques années avant, il dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 1, qu'en arrivant sur l'île, il a pu, arriver en quittant Troas sur l'île de Samothrace avant d'arriver à Thessalonique. L'île de Samothrace. Le message de l'apôtre Paul est particulièrement marqué par cette idée, c'est que la victoire pour nous se trouve en Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Tout le message de l'apôtre Paul est marqué par cela. La victoire est en Christ. Or, lorsqu'il arrive à Thessalonique, il est dit qu'en passant par Troas, il arrive sur l'île de Samothrace. Et sur l'île de Samothrace, il a pu admirer une statue qui mesurait 3,50 m et qui s'appelait l'Athéna Niké, c'est-à-dire la victoire d'Athéna. Confronté à cette statue, à cette croyance des Macédoniens qui avaient sculpté cette statue 3 siècles auparavant, Paul venait dire aux Thessaloniciens, il est une autre victoire que celle d'Athéna, quelles que soient les victoires que vous ayez remportées, c'est la victoire de Christ. Pour vous et en vous. Aucune statue aussi grande commémorant la plus grande bataille que les Macédoniens, la première bataille que les Macédoniens avaient remportée, n'est égale à la victoire de Christ. Et c'est ce message qu'il a apporté à Thessalonique. Cette statue, vous la connaissez tous. Cette statue qui était sur l'île de Samothrace. C'est la victoire de Samothrace qui se trouve dans le musée du Louvre à l'heure actuelle. Cette statue avec les ailes déployées, c'est l'Athéna Niké. Elle est enfermée maintenant dans le musée du Louvre. Qui se souvient de la victoire que les Macédoniens ont remportée et qui ont fait ériger cette statue qui est maintenant regardée, admirée par des millions de visiteurs? Peu de personnes. Mais Paul a dit aux Macédoniens et aux Thessaloniciens, voici, il est une autre victoire, celle que Christ a remportée pour vous. Les chrétiens qui sont morts ressusciteront. On le lit dans 1 Thessaloniciens 4:17. C'est un texte que nous lisons souvent dans les périodes de deuil. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, parce que ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront. Et puis il y a dans cette épître, ce verset 3, cette fameuse trilogie que l'on retrouve souvent chez Paul, dans plusieurs de ses lettres, la foi, l'espérance et l'amour. Il dit, nous nous rappellerons sans cesse, nous nous rappelons, nous nous souvenons. Ah, qu'est-ce que c'est beau de pouvoir se souvenir de ce qui a été. Et en même temps, vous savez, on essaye de se souvenir, et je disais à quelqu'un il y a quelque temps, quand je serai mort, on se souviendra encore de moi pendant quelques dizaines d'années, 10, 20, 30 ans, mais au bout de 40 ans, qui se souviendra de Jean-Marc Wangto? Mes petits-enfants auront un léger souvenir, mais alors mes arrière-petits-enfants, ils m'auront oublié. Un vague souvenir. L'apôtre Paul dit, nous nous souvenons sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Il est un souvenir qui demeure, c'est ce qui est posé pour l'éternité. Ce qui est fait pour l'éternité, non seulement les hommes s'en souviennent, mais Dieu s'en souvient. Et l'Église s'en souvient. La lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est aussi un rappel pour nous souvenir ce que les Thessaloniciens étaient dans leur foi et dans leur Église. Nous allons partager le pain et nous allons commémorer, nous souvenir de la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Elle a eu lieu il y a 2000 ans. Il y a 2300 ans, les Macédoniens ont gagné une victoire, qui s'en souvient? Aujourd'hui, la victoire qui est en Christ demeure, non seulement dans nos mémoires, mais dans notre vie au jour le jour. Et je me disais que finalement, le pain est l'aliment idéal pour se souvenir, parce que ce pain était fait avec du blé. Ce blé est issu des graines de blé qui ont été semées auparavant, qui elles-mêmes provenait de semences précédentes, etc. Ce blé qui est là, il est le fruit d'un blé qui a été semé, ressemé, ressemé. C'est-à-dire que ce fruit s'est répété et fait qu'aujourd'hui nous avons un pain. La parole de l'Évangile, cette parole de vie est une parole qui a été semée par Paul, par les Thessaloniciens, pour qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, un homme se lève et dise « Moi en Alsace, cette parole m'a rencontré, ce blé vivant, cette parole de vie. » Nous nous souvenons de cette parole de vie qui s'est semée année après année, décennie, siècle après siècle, pour qu'aujourd'hui, nous soyons tous ensemble ici. Ah, le monde d'aujourd'hui essaye de se souvenir. Il y a en ce moment un rêve, un sentiment ou une volonté d'éternité que les hommes souhaitent acquérir au travers d'Internet, vous savez. On a maintenant des sites dédiés à la mémoire d'eux, afin que les générations qui suivront aillent dans le cloud. Il y a quelque chose d'assez mystique là-dedans. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Le cloud, je l'ai cherché. Alors, c'est vrai que je lève la tête de temps en temps. Et dire que là-haut, il y a plein d'informations qui sont là. Hein ? Est-ce qu'il n'y a pas un simili-royaume de Dieu qui est en train d'essayer d'être posée, imaginée pour l'homme pour devenir immortel. Et vous avez des sites où les hommes disent, ben voilà, si vous voulez qu'on se souvienne de vous, on va alimenter votre vie durant tous vos souvenirs, puis vos proches le mettront. Et ça ne disparaîtra jamais. J'ai quelques doutes que ce royaume d'Internet puisse être aussi éternel que le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu est éternel. Alors, ce souvenir, quel est-il pour l'apôtre Paul au moment où Timothée lui donne des bonnes nouvelles de l'église de Thessalonique, il dit, bien voilà, je me rappelle de l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Et c'est cette trilogie-là que j'aimerais aborder avec vous. L'œuvre de votre foi. En grec, le mot qui est utilisé, en fait, pour l'œuvre de votre foi, c'est le travail de votre foi. Alors on dit, oui, mais il y a déjà le travail ensuite de votre charité. Mais ce ne sont pas les deux mêmes mots. Le premier, c'est vraiment le travail, et c'est le mot ergon. Ça a donné ergonomie. Ouais, hein, le travail, l'activité, le vrai travail, le principe du travail, c'est travailler, l'œuvre, l'action, la tâche, l'ouvrage, le travail. Donc, l'œuvre de votre foi, le travail de votre foi. Et il y a eu ce matin une parole qui est dit, qui disait, apportée par Jean-Louis, il est important que tu te mettes en repos. C'est pas ça ? À la sieste ? Non ? Au chômage ? Non plus. Il est important que tu te mettes au travail. Ceux qui sont autour de toi attendent que tu te mettes au travail et que l'œuvre de ta foi, le travail de ta foi, leur soit profitable. Il est important que tu te mettes au travail. Seigneur, je ne peux pas, tu comprends, je bégaye, je ne peux pas parler. Comment un petit berger comme moi, Moïse, je pourrais me mettre au travail ? L'Écriture est pleine de ceux qui se sont dit « Je ne suis pas capable, je ne peux pas, ou je n'ai pas le temps, ou je ne suis pas d'accord avec toi. » Vous rappelez ce petit prophète qui disait « Allez à Ninive pour aller annoncer le salut à cette ville de mécréants. » Non, non, je ne suis pas d'accord. Il y en a plein d'enfants de Dieu qui ne sont pas d'accord avec Dieu, donc ils disent « Non, non, je ne me mettrai pas au travail. » Et pourtant Dieu ce matin disait « Je veux collaborer avec toi. Je veux être avec toi et travailler, faire que l'œuvre de ta foi, le travail de ta foi soit efficace pour tes enfants. » C'est pas important cela ? Que nos enfants soient touchés par l'œuvre de notre foi. Nos parents ? Est-ce que ce n'est pas important que mon père, ma mère, qui ne connaissent pas le Seigneur, soient touchés par l'œuvre de ma foi ? Et Dieu dit, en plus, je vais collaborer avec toi. Moi, j'ai environ 28 collaborateurs autour de moi. Et j'en suis satisfait. J'avoue que j'ai appris tellement de choses de la part de mes collaborateurs, de ceux qui travaillent avec moi. Mais si, à côté de moi, il y a un collaborateur qui dit, bon voilà, moi je suis Dieu, tu vas travailler et moi je t'aide. Ben, même si mes collaborateurs au travail sont bons, je dis, celui-là, je le préfère. Et pourtant, combien de fois négligeons-nous ce collaborateur qui se met à notre disposition par la puissance, la force, l'autorité du Saint-Esprit. L'œuvre de votre foi, tout ergoutes pisteos, l'œuvre de ta foi. Je travaille. C'est bien là le problème. C'est le je qui travaille et non pas Dieu en moi, l'action de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Oh, je travaille. Hein ? J'ai fait. Hier, j'ai participé à la repeinte du cabanon qui est dans la cour de l'église avec Christine et avec Claudine. J'ai travaillé. Ouais, bon, merci de l'attester. Je. Ouais. Mais parfois, ce n'est pas ma foi qui me met en mouvement, le travail de ma foi, mais c'est le je, l'ego, je. C'est mon sens du devoir. Je devais être là hier pour travailler. Ce n'est pas ma foi qui m'a mis en mouvement, c'est « oh, je dois le faire ». Ça, c'est un des pièges qui, dans ma vie, est certainement le plus présent, le sens du devoir. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants, avec beaucoup de difficultés dans cette famille, et j'ai peut-être développé certainement quelque chose qui m'est le plus préjudiciable, c'est le sens du devoir. Il est bon, le sens du devoir, mais quand c'est le sens du devoir qui domine sur la foi, sur l'amour, alors ça peut devenir un piège. Dans ma vie personnelle, ça en est un. Je le reconnais, il faut que je trouve toujours à remettre le curseur au bon endroit. Est-ce que je suis venu peindre ce cabanon parce que c'était mon devoir d'y être? Ou bien est-ce que c'est parce que le Seigneur, quelque part, me dit, ben voilà, ta foi, c'est d'être acteur, de travailler aussi bien à repeindre ce cabanon qu'annoncer l'Évangile, que d'inviter un tel ou un tel à prendre un café avec moi pour pouvoir partager la foi qui est la mienne. C'est mon ego ou c'est ma foi qui est en action? Si c'est mon ego, alors je risque fort, à un moment donné, d'entendre la voix du Seigneur qui me dise « Jean-Marc, Jean-Marc, tu t'agites, et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas choisi la meilleure part. » Est-ce que vous n'entendez pas parfois cette voix-là dans votre vie? Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu n'as pas choisi la meilleure part. Ce qui est bon, c'est quand l'œuvre que nous accomplissons est l'œuvre de notre foi. Suivre Christ, Paul en parlera dans une autre de ses épîtres, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, à son ego, et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Tu parles d'un programme. Attends, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que si je veux marcher avec toi, il faut d'abord que je perde le sens de mon ego, que je prenne une croix, que je te suive avec la croix, parce que celui qui perdra sa vie la sauvera. Abandonner son ego pour marcher, travailler par la foi. Suivre le Christ, c'est suivre un chemin d'humilité. Et c'est seulement de cette manière-là que nous pourrons vivre de la force et de la résurrection de Christ dans chacune de nos existences. Pour Paul, son message aux Thessaloniciens, c'est la foi dans la résurrection du Christ, une mort prélude de la victoire. Et face à cette fameuse statue, la Thénanikê de Thessalonique, victorieuse, il oppose celui qui est ressuscité, qui est vraiment ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous avons la victoire. Aux disciples qui lui posaient la question, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus répondait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça, l'œuvre. Notre travail, c'est d'être dans ce positionnement. Je crois qui est Christ. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord faire, c'est d'abord croire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, on se souvient de l'œuvre, de votre travail, mais pas de votre travail d'ego, d'homme ou de femme. On se souvient de l'œuvre de votre foi. Est-ce que c'est cela dont on se souviendra lorsque je serai parti, que je ne serai plus là? Est-ce qu'on se souviendra non pas du travail de mon ego, mais du travail de ma foi? Est-ce que ceux qui nous entourent aujourd'hui, nos plus proches, quand je dis le plus proche, souvent c'est le conjoint, vous savez, ou le père, ou la mère, ou l'enfant, Est-ce que mon plus proche pourra dire et témoigner « Je me souviens de l'œuvre de ta foi » ? Parce que le restant, vous savez, quoi que l'on fasse, ça passera. Cela passera. Il n'en restera que peu de traces. Est-ce qu'on se souvient déjà maintenant du travail de notre foi? La deuxième chose dont parle Paul aux Thessaloniciens, on se rappelle constamment le travail de votre charité. Encore ? En fait, Paul, c'est un patron. Vous vous rendez compte ? On se souvient du travail de votre foi et on se souvient du travail de votre charité. Il n'y a que le boulot qui compte chez lui. Je vois une collègue de travail qui sourit, qui se dit « Il n'est pas le seul ». On se souvient du travail de votre foi et on se souvient du travail de votre charité. La foi, la charité. Et le travail dans ces deux choses. Ici, le mot grec qui est utilisé, ce n'est pas ergon, le travail comme valeur ou principe général, c'est kopos. Et ça fait plutôt, si on devait le traduire, kopos, on le traduirait davantage par le labeur. Le labeur. Et vous savez, quand on parle de labeur, on parle davantage de la charge du travail, du poids du travail, que du principe général. Souvent, je dis que j'ai eu une grâce de Dieu dans ma vie. C'est qu'il a conduit les choses pour que je me trouve engagé dans une activité où quand je vais au travail, je n'ai pas l'impression d'être au travail. J'ai souvent, moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je ne suis pas trop mal payé pour ne pas travailler, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un labeur. J'y vais parce qu'il y a... Alors, ça devient... peut-être lourd, pesant, fatigant, etc. Mais il y a un tel plaisir à vivre certaines choses. J'arriverai pas à dire que j'ai un labeur. Je pense que les gens qui... Je voyais Michel tailler les haies, etc. hier matin. On voyait le professionnel, son taille-haies. Moi, je pense que là, il y a du labeur. Parce que c'est fatigant pour le corps, c'est fatigant pour les muscles, c'est fatigant pour l'être tout entier. Là, il y a de vrais labeurs. Mon père était maçon. C'était un travail, mais aussi un labeur. Je pense que ceux qui sont dans l'enseignement peuvent dire « j'ai du travail », mais peut-être qu'ils auraient du mal à dire « c'est un labeur, je souffre, c'est lourd », etc. Ça peut l'être. Mais il y a aussi de la passion, de l'envie, un pompier, des gens qui sont là au service des autres, une infirmière. Là, ici, c'est le travail de votre amour, la charité. En fait, c'est tout copou, tes agapes. C'est-à-dire, c'est l'amour ultime et parfait. Le travail, le labeur de votre amour. Ah, est-ce que l'amour peut se mettre au travail comme pour un labeur, quelque chose qui pèse? La notion de chômeur dans le travail de notre amour, ce serait de ne plus avoir de champ d'activité pour que l'amour de Dieu, qui est en nous, ne trouve une manière de s'exprimer. Hein ? On vient de commémorer, le mois dernier, le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Et ce matin, peut-être en ce moment même, la petite-fille de Martin Luther King intervient dans le culte où Laetitia, la fille de Michel et Catherine, se rend dans l'église Martin Luther King de la région parisienne. Et en lisant cela, le travail de votre amour, je ne peux pas ne pas penser à ce livre de Martin Luther King qui était « La force d'aimer ». La force d'aimer. Car pour aimer, il faut de la force. Il faut de la force pour aimer. C'est en cela que l'amour s'affranchit de la question des sentiments. Notre société, notre monde actuel, confond l'amour et les sentiments. Mais lorsque Martin Luther King a écrit ce livre, il l'a écrit en parlant d'un amour, d'un agapé qui se met au travail, au labeur. Il faut transpirer, parfois, pour aimer. Il faut mettre de la force pour pouvoir aimer. Alors d'où vient cette force intérieure? Comment peut-on travailler avec notre amour? Comment notre amour peut-il se mettre au travail? D'où vient cette force intérieure? Celle qui peut conduire un homme à bouleverser l'ordre établi de la ségrégation en se donnant jusqu'au bout. Martin Luther King était conscient que sa vie était en danger. Il le savait. Et pourtant, il a continué, parce que la force de l'amour de Christ qui était en lui l'incitait à accomplir ce labeur. Et c'était loin d'être un travail agréable tous les jours, d'être confronté à la haine, à la colère, à l'opposition, à la violence. Quelle force peut me permettre, moi, aujourd'hui, de pardonner à celui qui m'a offensé? À demander pardon pour l'offense que j'ai occasionnée, pour guérir la relation entre moi et l'autre. Quelle force de l'amour de Christ en moi peut travailler et me mettre au travail? L'amour n'est pas affaire de sentiments. En tout cas, pas uniquement. Il s'agit principalement de volonté. J'aime cette phrase ou cette formulation, il s'agit de vouloir aimer. Christ a voulu m'aimer. Le Père a voulu m'aimer jusqu'au bout en donnant son Fils. Dans Jacques, l'épître de Jacques, il y a ce verset que nous connaissons bien. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça a été un verset très, très discuté au moment de la réforme au XVIe siècle, qui voulait absolument mettre en avant le salut par la foi. Mais l'un, dans ce verset de Jacques, l'un existe comme l'autre. Alors, je pourrais presque le transposer en disant, montre-moi ton amour sans aucune preuve. Et moi, je te montrerai mon amour avec ces preuves d'amour. Aimer, c'est mettre en action, c'est faire travailler son amour, et ça ne peut pas être un amour uniquement dans le cloud. Ah, il y en a qui ont de l'amour dans le cloud. Au-dessus, bien au-dessus. On ne le voit jamais, mais la personne vous atteste qu'il y a de l'amour là-dedans, dans ma vie. « Ah, je ne le montre pas, elle n'est pas en action, il ne travaille pas cet amour, mais il est là, t'inquiète pas !» Combien de maris disent à leur femme « Je t'aime, sois-en certaine. »« Je ne te le montre pas, mais c'est parce que c'est ma nature. Je suis un homme réservé, pudique. » Vous savez, les hommes sont des petits êtres délicats, tellement en difficulté pour exprimer leur ressenti, le faire en action. Ah, non, non, une caresse. Un sourire, une parole. Un amour ne peut pas être qu'un amour dans le cloud. Il doit être un amour dans le quotidien. Mon amour doit travailler. Et c'est pour ça que le mot qui est utilisé, le travail de votre amour, c'est le labeur de votre amour. Croyez-moi, si nous voulons exprimer l'amour de Dieu en nous, c'est un labeur. Vous savez que la première des paroles de, entre guillemets, de malédiction de Dieu par rapport à l'homme chassé du jardin. Tu travailleras la terre facilement, confortablement. D'ailleurs, il faut voir comment Michel a vieilli. Hein, 30 ans comme jardinier, 40 comme jardinier, comme une fleur. Non ? À la sueur de son front. Je le regardais travailler hier et a terminé la journée à 16h, 17h. Alors, nous, on était avec les pinceaux, hein. Ça allait, c'était déjà un peu fatigant, mais lui, c'était... Hein. Et puis avec Catherine, ils ont balayé, hein. À la sueur de leur front, ils ont travaillé. Ouais. L'amour, c'est un labeur, si on veut le mettre en action, si on veut le faire travailler. Ça coûte, ça fatigue, mais qu'est-ce que c'est bon pour moi comme pour l'autre? Ça me construit, ça construit aussi ma relation avec l'autre. Ne pas avoir un amour qui est au labeur, eh bien, c'est négliger l'autre. Et rêver l'amour plutôt que de le vivre. C'est un rêve d'amour. Mais un amour qui n'est pas au labeur, jour après jour. Montre-moi ton amour sans preuve, et moi je te montrerai mon amour par les preuves qui sont présentes dans ma vie. Vous connaissez les 3,16 de Jean ? Si je vous dis Jean 3,16, ça vous dit quelque chose, les 3,16 de Jean ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, vas-y, Marie-Vonne. D'accord. Ça, c'est le 1 des 3,16 de Jean. Vous en connaissez un autre des 3,16 de Jean ? Écoutez. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est où ça se trouve, ça ? 1 Jean 3, 16. Oh là là, les hasards. Parce que ce n'est pas Jean qui a coupé la Bible en chapitre inversé. Mais j'aime beaucoup ce parallèle. Vous ne l'aviez jamais remarqué, peut-être ? Premier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3,16 pour moi. C'est merveilleux. Ah, ça, on le connaît. Ah, qu'est-ce qu'on connaît bien ? On dit même que c'est un résumé de l'Évangile. Mais c'est un résumé de l'Évangile pour moi. L'amour de Dieu révélé pour moi. Et si je lis 1 Jean 3,16, alors je lis « Nous avons connu l'amour », le fameux résumé de Jean 3,16, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » On va rester à Jean 3,16. L'épître de Jean, elle est plus tardive, peut-être moins inspirée, je ne sais pas. Parce que s'il faut aussi donner, que notre amour fasse que nous nous donnions pour l'autre, c'est une extension que je n'avais pas prévue. Vous savez, c'est les programmes informatiques, vous savez ça, hein, on vous vend un logiciel, et puis après, comme pour les jeux, il faut acheter l'extension. Et puis après, vous avez l'extension de l'extension. Ben, Jean 3,16 ne peut pas se vivre sans son extension. De 1 Jean 3,16. Il y a le résumé de Jean 3,16 dedans. Et ensuite, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Eh oui, le labeur de votre amour. Nous nous souvenons tellement du labeur de votre amour, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Que dira le monde du labeur de l'amour de la communauté de Kévin ? De son labeur. Est-ce que cette communauté est constituée d'hommes et de femmes qui disent « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères à cause de l'amour agapé qui est en nous ?» Vous savez, le problème de Martin Luther King, parce que c'est quand même un problème, le problème de Martin Luther King, c'est que c'est un extrémiste. Hein. Les extrémistes, c'est toujours problématique. D'ailleurs, on pourrait même dire aussi que le problème de Jésus, parce que c'est un vrai problème, Jésus pose problème. Le problème de Jésus, c'est que c'est aussi un extrémiste. Il ne nous attend pas dans une demi-mesure. Dans la parole de Dieu, nous trouvons « ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Et c'est quoi un culte raisonnable ? C'est de venir et de vous donner tout entier comme un sacrifice vivant. Ça, on peut dire, c'est de l'extrême. Mais c'est aussi la dimension dans laquelle Dieu nous attend les uns et les autres. Quand il y a des jeunes qui prennent leur baptême ici, il y en a eu un avec Valentin récemment, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais bien être là dans 30 ou 40 ans pour voir comment ce jeune homme aura fait prospérer ce don qu'il a reçu en mettant au travail et sa foi et son amour. Je sais que probablement je ne serai pas là, je le verrai d'ailleurs, mais en tout cas, je me dis, voilà, c'est ce que Dieu attend, pas simplement quand on prend son baptême, mais tout au long de notre vie. Est-ce que nous sommes sur cette dimension-là ? J'aimerais terminer avec ce troisième point du triptyque, la fermeté de votre espérance. Un, la fermeté de votre espérance. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit « N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour l'éternité. » Waouh ! Je ne sais pas si vous connaissiez cette situation. Moi, je l'ai retrouvé en lisant un autre livre qui citait cette parole de Saint-Exupéry. « N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que le fait de vivre avec une espérance pour le grand avenir, pour l'éternité, va fortement affecter qui nous sommes. Tout comme ne pas vivre avec une espérance future. Nous sommes forcément affectés par la vision que nous avons de ce que nous faisons. Si on travaille juste pour le mois qui vient, notre espérance est à court terme. Mon médecin qui m'a dit cette semaine, elle me dit « Bon, on verra ça dans 10 ans. » Puis moi, je dis « Ah bon, dans 10 ans ?»« Dans 10 ans, je ne sais pas où je serai. » Lui, il avait plus d'espérance que moi. Moi, je dis « Je ne sais pas. » Il dit « Monsieur, on verra tout ça dans 10 ans. D'une année, on reprendra ça. » Bien bon, d'accord. Donc, son espérance m'a fait du bien. Du coup, je suis ressorti en me disant « Ah bon, j'ai au moins 10 ans d'espérance. » En tout cas, c'est ce qu'il croit. Donc, je vais m'appuyer là-dessus. Nous avons une vision de l'avenir qui est portée par l'espérance que nous avons. C'est vrai que dans notre société, nos origines sont le fruit du hasard et notre destinée sera le fruit du hasard. Ça laisse peu de place pour l'espérance, pour l'avenir de l'homme, pour son âme, pour son corps. Donc, il y a quand même un problème parce qu'on nous dit « vos origines ». On veut que nos origines n'aient pas de sens. Fruit du hasard, une cellule qui se sépare, et puis etc., un singe qui tombe de l'arbre, enfin, nos origines n'ont pas de sens. On veut que notre destinée n'ait pas de sens. Mais curieusement, on voudrait que la période entre notre origine et notre destinée ait un sens. Ça devient compliqué. Quelle est l'espérance du chrétien ? Il est dit dans l'Écriture que l'espérance du chrétien, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu à venir, c'est la gloire passée, présente et à venir. C'est cette gloire éternelle. Voilà l'espérance du chrétien. Est-ce que nous avons cette espérance dans notre vie ? Ou bien est-ce que nous avons juste une petite espérance pour cette vie présente et puis on verra bien après ? Ou est-ce qu'on a une espérance un petit peu plus ou moins floue ? Ou est-ce que vraiment notre espérance habite la gloire de Dieu ? Est dans la gloire de Dieu, passé, présent et à venir, éternelle parce qu'elle est en dehors du temps qui est une invention de Dieu. Est-ce que nous avons cette espérance-là ? Si on s'en tient au dictionnaire, le mot espoir et espérance sont des synonymes. On est bien d'accord ? Espoir, espérance. En fait, tous les deux sont reliés au verbe espérer qui signifie attendre, désirer, souhaiter que quelque chose arrive ou se produise. Et le verbe espérer désigne donc une attente. J'espère. J'espère que ma femme a prévu le repas de ce midi. Mon espérance est très brève, vous voyez. J'espère que dans les 2 heures qui viennent, je vais pouvoir manger. Un désir qu'on voudrait bien voir se réaliser. Et moi, tous les jours, quand je rentre, d'ailleurs ce matin, avant de partir à l'église, qu'est-ce que tu as prévu pour ce midi ? Vous voyez, j'ai une espérance à court terme, mais répétée. Quand je rentre du travail, c'est la même chose. Je ne suis pas le seul. Je vois des femmes qui sourient, qui se disent « mon mari, c'est la même chose hein ». Voilà. Une chose espérée, par définition, n'est donc pas assurée. Si on l'espère, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr. Même si ma femme, depuis 30 ans, me nourrit, mais tous les jours, j'ai un petit peu un doute comme ça. J'espère. C'est ici la première caractéristique du mot espérer. Il comporte une incertitude. On ne sait pas si les choses vont aller comme on le souhaite. Il y a des choses, des domaines qu'on espère. Mais on a un peu le doute. J'espère. Deuxième caractéristique, le verbe espérer est toujours tourné vers le futur. J'espère pas du passé. C'est plus la peine. Même dans le présent, j'y suis. Mais on espère toujours dans le futur. On ne peut pas espérer quelque chose qui est déjà arrivé. On espère donc forcément et seulement au futur. Ça inclut une troisième caractéristique, c'est que le verbe espérer implique que nous n'avons pas l'entière maîtrise sur les choses attendues. On n'a pas la maîtrise de ce en quoi on espère. C'est pourquoi, dernière caractéristique, le verbe espérer est toujours lié à une certaine crainte. Et si la chose que j'espère n'arrivait pas ? Toujours de l'inquiétude, hein ? Alors ça, ce sont les notions liées au verbe espérer et qu'on retrouve avec les mots espoir et espérance. Si vous regardez ces mots définis dans le dictionnaire, vous verrez qu'on a toujours cette question d'incertitude. Mais en lisant la Bible, il y a une différence fondamentale peut-être entre espoir et espérance. En fait, c'est la portée de ces mots qui les distingue très nettement. Pour les chrétiens, l'espoir concerne les choses de l'expérience quotidienne qui visent la vie sur terre. J'ai l'espoir que... Hein ? J'ai l'espoir que le Seigneur m'accompagnera dans mon service, dans mon ministère. Quand j'ai vu mon garçon naître, Christophe, j'avais l'espoir que dans les années qui viennent, il allait donner sa vie à Christ. C'était vraiment un espoir sur cette terre, pas dans l'éternité, sur cette terre. Donc l'espoir habite notre expérience quotidienne, tandis que l'espérance concerne le royaume de Dieu. Je pense qu'il y a vraiment cette différence dans l'écriture entre l'espoir et l'espérance. L'espérance concerne le royaume de Dieu. Le sens particulier de ce mot, c'est que le suffixe ance, ance, ça vient du latin ancia, eh bien, s'ajoute à des verbes pour former des noms marquant l'action dans sa durée et son résultat. Un exemple, le mot souffrance dit l'expérience de celui qui souffre. Dans le temps, la souffrance, ça dure dans le temps. Hein ? Ceux qui sont dans la maladie savent ce que cela veut dire. Ce n'est pas quelque chose uniquement dans une... Hein ? Je souffre, mais la souffrance est quelque chose qui perdure dans le temps. De même, l'espérance chrétienne dit l'expérience de celui qui met sa foi en Dieu. Elle n'est donc pas comparable à une attente ponctuelle concernant une chose précise dont nous souhaitons la réalisation, elle est le mouvement de l'âme qui attend le royaume de Dieu. L'espérance, c'est le mouvement de l'âme qui attend le royaume de Dieu. L'espérance chrétienne va ainsi de pair avec la foi. Là où foi est relation avec Dieu et confiance en sa bienveillance, l'espérance est attente et ouverture à Dieu et vers Dieu en tout temps. Alors, voilà, c'est un petit cours de français. Vous avez pris des notes. La différence entre espérer et espérance. Ça signifie que si aujourd'hui les gens sont si désenchantés, c'est précisément parce que les hommes et les femmes de ce temps ont trop d'espoir et pas assez d'espérance. Vous voyez la différence ? Il y a tellement d'espoir pour cette vie. Pour demain, pour le mois prochain, pour Noël prochain, pour mon anniversaire, pour mon travail. Tellement d'espoir et si peu d'espérance ancrée en Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a trop d'espoir, de désir, d'attente pour les choses terrestres, matérielles et limitées au futur proche. Mais ils n'ont pas assez d'espérance au sens chrétien du mot. On veut réussir sa vie, c'est bien normal. Mais qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et trop de personnes semblent ignorer qu'une vie réussie, ce n'est pas seulement une vie avec des armoires pleines, avec des coffres remplis, des vacances aux quatre coins du monde, mais une vie qui a une âme. Une vie que l'on ne vit pas uniquement pour soi-même, selon ses seuls désirs et ses attentes intéressées. Est-ce que c'est cela que nous voulons ? Ou est-ce que nous voulons être des hommes et des femmes remplis de l'espérance de Dieu, dans le royaume de Dieu ? Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'espoir qui fait vivre. Ce qui fait vivre, ce qui donne du goût, de la force à la vie, c'est l'intégration de l'espérance en notre vie. Quelqu'un qui a de l'espérance, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a des espoirs. Intégrer l'espérance du royaume de Dieu dans nos vies, ça fait la différence, frères et sœurs. Ça fait la différence. Alléluia. Alors, c'est légitime d'avoir des espoirs, des désirs et des attentes, mais ne leur donnons pas toute la place dans notre être intérieur. Vivre de ses seuls espoirs, c'est s'exposer un jour au désenchantement et au désespoir. Qu'est-ce que nous voulons vivre ? Est-ce que nous voulons être des hommes et des femmes qui faisons de la place, une grande place dans nos vies à l'espérance de Christ, qui s'approprie l'espérance du royaume de Dieu et qui le laisse grandir en eux. Afin que de nous, comme Paul disait aux Thessaloniciens, je me rappelle de toi sans cesse du fait de l'œuvre de ta foi, du travail de ta charité et la fermeté de ton espérance. Je remercie Francine pour ce partage qu'il y a eu quelques semaines sur ces introductions de l'apôtre Paul. Et tout au long de ces semaines, j'ai pris des notes parce que ça m'a tellement travaillé. Et c'est ce qui m'a permis là aussi de partager ce moment avec vous. Seigneur, que cette parole, cette lettre, cette première lettre, ce premier écrit qui a été donné à ton Église, soit aussi une lettre que nous recevions de toi et qui nous mette en mouvement. Le travail de notre foi, le labeur de notre amour, la fermeté de notre espérance. Tu sais là où nous devons abandonner notre ego et laisser de la place à l'action de ton esprit. Nous sommes sur ce temps de Pentecôte. Et nous voulons te dire, Seigneur, fais souffler ton esprit sur nos vies. Amen.